Décryptage, Marie Casadebé.
Une semaine après le référendum d'autodétermination de la Catalogne, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Barcelone hier, cette fois pour dire non à l'indépendance de la région. Cette indépendance, elle pourrait être déclarée demain, mardi, c'est ce que sous-entend en tout cas le président de la Généralité, Carles Puigdemont. Mais plus le grand saut approche, plus la pression monte, la pression de la rue, on l'entend, les dissensions internes, la réaction de repli de certaines entreprises catalanes. Les indépendantistes iront-ils jusqu'au bout de leur processus d'indépendance? Quel impact sur la société espagnole qui apparaît plus divisée que jamais? Quelles conséquences déjà, notamment sur l'économie catalane? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Stéphanie Chonneau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille, dans le nord de la France, spécialiste de l'Espagne. Et nous sommes aussi avec Anthony Sfez au téléphone, en direct de Madrid, doctorant en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, membre chercheur à l'École des hautes études hispaniques et ibériques. Carles Puigdemont, bonsoir Anthony Sfez. Carles Puigdemont, le président catalan, a demandé à s'adresser au Parlement régional demain. Stéphane Michonneau, au regard de l'attitude que le chef de l'exécutif catalan a eue depuis le début de la crise, est-ce que le scénario le plus probable, c'est qu'il aille jusqu'au bout et qu'il déclare l'indépendance de la Catalogne ?
Difficile à dire, je ne suis pas devin, évidemment, mais j'ai des doutes. D'une part, évidemment, il y a une très forte pression, en particulier une pression sociale qui est extrêmement forte de la part des milieux indépendantistes. Il est aussi un petit peu l'otage du parti de la coupe, dont dépend sa majorité au Parlement, ce parti anticapitaliste plutôt radical. Donc il y a des choses qui laissent entendre effectivement qu'il ira jusqu'au bout, puis il le dit.
On va l'entendre justement à ce propos. C'était samedi à la télévision catalane, on va entendre à quel point il semble prêt à aller jusqu'au bout.
Sur la déclaration d'indépendance, on ne parle pas de déclaration unilatérale. La déclaration d'indépendance est prévue dans la loi du référendum en tant qu'application des résultats du référendum. Donc on va appliquer ce que prévoit la loi.
Carles Puigdemont qui dit que la déclaration d'indépendance est prévue dans la loi de référendum. Anthony Sfez, un mot sur cette loi. Il semble que le Parlement catalan ait tout prévu.
Oui, le Parlement catalan a adopté deux lois. De loi très importante le 6 et 8 septembre 2017, qui établit une sorte de légalité parallèle, qui vise à déloger l'ordre constitutionnel espagnol du territoire catalan. Et cet ordre juridique, ce nouvel ordre juridique catalan, ce qu'il prévoit, c'est qu'en cas de victoire du oui, s'il y a plus de oui que de non, indépendamment du taux de participation au référendum qui a eu lieu le 1er septembre dernier, l'entrée en vigueur automatique, d'une part, de la loi de transition juridique fondatrice de la République catalane, et d'autre part, la déclaration d'indépendance par le Parlement catalan. Donc, ils sont dans la logique de leur propre légalité qu'ils ont instaurée.
Alors, est-ce que pour vous aussi, le scénario le plus probable, c'est vraiment la déclaration d'indépendance au regard de la loi dont vous parlez ?
Oui, je pense. Mais je pense aussi qu'il faut dédramatiser la déclaration d'indépendance.
Stéphane Michonneau n'a pas l'air d'accord avec vous. Pour vous, c'est pas aussi clair?
J'ai des doutes parce que la stratégie, maintenant, je me demande si c'est vraiment l'indépendance ou c'est d'être en forme et fort pour une future négociation. Parce que cette négociation, il y aura. Et donc, en franchissant ce pas, il se met très franchement, donc plus encore dans l'illégalité, même arrêté. Est-ce qu'en étant en prison, il est en bonne position pour négocier? Alors que s'il refusait ce pas, il ferait peut-être figure d'homme d'État responsable, je ne sais pas, et il serait peut-être en meilleure position de négocier parce que Rajoy pourrait plus difficilement lui refuser le dialogue. Voilà. Alors, quel est l'objectif ? Est-ce que c'est l'indépendance ou est-ce que c'est la négociation qui réfléchisse à la situation de la Catalogne en Espagne ?
On parlait tout à l'heure de plusieurs, plusieurs mouvements. L'indépendantisme catalan n'est pas une seule. Il y a plusieurs tendances. Et on a l'impression que plus on s'approche du grand saut, et plus certains freinent un peu des quatre fers. Je pense par exemple au ministre catalan de l'entreprise qui s'est exprimé dans la presse. Et il a l'air de demander une trêve, le temps de la discussion. Il y a vraiment ces divisions-là au sein des indépendantistes.
Oui, semble-t-il, là, vous parlez. Effectivement, oui, semble-t-il, il y a une division à l'intérieur du camp indépendantiste sur la stratégie à adopter entre ceux qui pensent qu'il faut négocier puis penser à une indépendance plus tardive, et ceux qui pensent qu'il faut immédiatement proclamer pour marquer une rupture symbolique.
Mais alors comment négocier, Anthony Sfez? Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il est encore possible de négocier?
Alors, juste une précision, je pense qu'il faut dédramatiser la déclaration d'indépendance. Si le Parlement catalan déclare l'indépendance, ça ne veut pas dire que ça coupe toute possibilité au dialogue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Michonneau quand il dit que les Catalans veulent dialoguer et que l'objectif final, ce n'est pas forcément l'indépendance. Mais en déclarant l'indépendance, ça ne veut pas forcément dire que la Catalogne demain sera tout de suite indépendante. Ça voudra dire, dans l'esprit catalan, qu'ils pourront négocier d'égal à égal.
Alors on négocie sur quoi, puisque Madrid, ouais, jusqu'à maintenant, n'a pas du tout l'air prête à discuter de quoi que ce soit. Stéphane Michonneau, on pourrait discuter de quoi?
Eh bien, le catalanisme, c'est une pensée évidemment de la Catalogne, l'affirmation de la souveraineté de la nation catalane, mais c'est aussi une pensée de l'Espagne. Le catalanisme est né comme cela, il a pensé l'Espagne, et il pense l'Espagne d'une certaine manière, c'est la vision d'un État multi ou plurinational. Et donc ça, c'est un sujet de négociation. Est-ce que l'on refond l'Espagne, ou est-ce qu'on repense l'Espagne d'une autre manière? Est-ce que ça peut se faire dans le cadre de la constitution actuelle? Est-ce qu'il faut changer de constitution? Voilà, ça c'est un débat, et les Catalans ne sont pas uniquement tournés vers eux, ils pensent également à l'Espagne.
Anthony Sfez, ça pourrait effectivement déboucher au moins sur un débat vers une Espagnole fédérale, un changement de constitution?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphane Michonneau, mais je pense que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objectif jusqu'en 2010, et même peut-être jusqu'en 2012, c'était ça. L'objectif du catalanisme politique, c'était de faire un État multinational. Mais aujourd'hui, la condition sine qua non du retour au dialogue pour les Catalans, enfin les nationalistes catalans, c'est le référendum d'autodétermination. Donc, peut-être qu'il voudrait effectivement qu'on propose dans le référendum d'autodétermination, s'il était organisé, une alternative, indépendance ou État multinational, et peut-être même que les partis nationalistes aujourd'hui modérés militeraient pour le maintien dans l'Espagne multinationale, mais ils veulent un référendum.
Alors, finalement, Carles Puigdemont, ou en tout cas les indépendantistes, pourraient obtenir quoi? L'idée peut-être d'un référendum national, que tous les Espagnols puissent se prononcer sur la question de la Catalogne?
Ça, ils n'en veulent pas. Hein. Non, ils veulent un référendum en Catalogne.
Alors, on voit dans les journaux ce matin, comptons-nous, hein, c'est intéressant, un référendum en Catalogne pour savoir finalement s'il y a une majorité ou pas, parce qu'on entend partout qu'il y a une majorité silencieuse d'un côté et une minorité indépendantiste de l'autre. Alors, j'aimerais bien savoir ce que Anthony Sfez pense, parce que c'est pas si sûr, on n'en est pas complètement certain.
Ce que je vais vous proposer aussi, c'est de l'entendre, cette majorité silencieuse, et Georges, donc, qui était dans la manifestation d'hier à Barcelone.
C'est important pour nous d'être ici, parce que ça fait longtemps que nous sommes réprimés en Catalogne, car on ne peut pas se sentir espagnol. Mais nous qui sommes là, dans cette manifestation, nous nous sentons espagnols et catalans. C'est une réalité qu'on ne montre nulle part, mais dont il faut bien tenir compte. On veut l'union entre le peuple catalan et le peuple espagnol. C'est pour ça que c'est important pour nous d'être ici.
Michonneau, à quel point alors les Catalans, avant de parler des Espagnols, sont divisés sur la question de leur avenir?
Ils semblent extrêmement divisés, c'est normal d'ailleurs qu'ils le soient. Simplement maintenant, il me semble qu'on entend un peu trop facilement que nécessairement il y aurait une majorité silencieuse et des indépendantistes minoritaires. Moi, je n'en suis pas si certain. Les événements récents ont peut-être fait pencher des gens du côté de l'indépendance, choqués de ce que les institutions de la généralité aient été mises en cause. Et ce sont des institutions extrêmement légitimes auxquelles les gens tiennent énormément. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent peut-être faire pencher la balance d'un côté que l'on n'attend pas.
Parce que c'est difficile de savoir finalement l'indépendantisme, à quel point il est présent en Catalogne. Le 1er octobre, seuls 42% des électeurs catalans sont exprimés lors de ce référendum pour massivement voter pour l'indépendance. Anthony Sfez, comment savoir ce qu'une majorité de Catalans souhaite? Est-ce qu'il y a eu par exemple des sondages récemment?
Oui, il y a des sondages depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Et ça aussi autour de 48 et 52%. Et même les élections autonomiques de 2015, où c'était en réalité une sorte de plébiscite pour ou contre l'indépendance, puisque les partis indépendantistes étaient coalisés, les résultats sont difficiles à analyser. Parce qu'on a la majorité Junts per el Sí qui a obtenu quelque chose comme 42% des voix, mais il y a également la CUP, qui est un parti indépendantiste, qui a obtenu quelque chose comme 6-7% des voix. Donc on est à 48% d'indépendantistes assumés à ces élections, Et en même temps, on a les électeurs de Podemos, enfin, la branche catalane de Podemos, qui ont fait un score important, mais dont on ne sait pas trop s'ils votent pour l'indépendance, en votant pour la branche indépendance la branche de Podemos en Catalogne, ou s'ils votent juste pour un référendum d'autodétermination.
Ça veut dire...
Ce qui est certain, c'est qu'ils veulent, il y a une immense majorité pour le référendum.
Pour le référendum, c'est-à-dire pour pouvoir s'exprimer, en fait.
Exactement.
Et Stéphane Michonneau, est-ce que c'est pas là que Madrid, finalement, s'est trompé, ou peut-être qu'ils auraient dû laisser les Catalans, au moins, s'exprimer pour avoir une photographie, en fait, de le catalanisme, c'est
ça? Et puis, ils l'auraient fait il y a quelques années, peut-être qu'ils auraient emporté leur pari à Madrid. Maintenant, c'est probablement un petit peu tard. Mais je crois qu'ils ont voulu la jouer un petit peu comme ils l'ont fait au Pays Basque il y a quelques années, avec vraiment un front légal et constitutionnalistes, qui est leur droit, hein, naturellement, et ça a effectivement permis de briser l'indépendantisme basque. Mais là, en Catalogne, il y avait des millions de gens dans la rue. Et c'est une immense différence, et j'ai l'impression qu'ils ont sous-évalué l'importance de ce mouvement social, parce que les dirigeants catalans suivent le mouvement social, hein, c'est pas l'inverse. C'est pas les dirigeants qui donnent des ordres, hein, les gens descendent dans la rue.
Là, ça veut dire que Carles Puigdemont peut au moins s'appuyer sur un élan catalan, avec l'envie de s'exprimer, plutôt que l'envie de se séparer de l'Espagne, c'est ça?
Oui, il me semble. Et ce mot indépendance a galvanisé les gens. On peut tâcher de dire que c'est une illusion. Moi, je ne me permettrai jamais de juger cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la société catalane, en partie, hein, a été galvanisée par cette idée. Tout le monde y a projeté des colères, des espoirs, des rancœurs, d'ordre extrêmement différent d'ailleurs. Mais ce mot a fonctionné.
Anthony Sfez, la question, vous qui êtes à Madrid, la question divise, j'imagine, jusque dans les familles. C'est un sujet qui doit s'inviter à table, au bureau, autour d'un café.
Écoutez, il suffit de s'asseoir à une terrasse de café à Madrid ou même à Barcelone, et il n'y a que ce sujet en bouche des gens, c'est-à-dire que tout le monde ne parle que de ce sujet, c'est normal. C'est la plus grande crise institutionnelle que connaît l'Espagne depuis la tentative de coup d'État de Tejero. Donc oui, c'est un problème institutionnel profond, et pour revenir sur la question du référendum, c'est vrai que Madrid a la possibilité juridique, je pense, de l'organiser, mais c'est très difficile parce que tout ça est surdéterminé par des questions extrêmement profondes, en ce sens que ça touche à la question de la souveraineté de la nation. Faire un référendum d'autodétermination juste en Catalogne et que en Catalogne, c'est remettre en cause le principe fondateur de la Constitution espagnole, à savoir la l'unité indissoluble de la nation espagnole. Donc c'est très compliqué.
Donc ça veut dire que le seul référendum possible, c'est un référendum national. Et est-ce que dans ces cas-là, on ne pourrait pas se pencher sur les résultats en Catalogne?
Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait, les résultats?
Comment se positionne la presse espagnole? Parce qu'on imagine qu'il y a des camps qui s'affrontent, ceux qui sont plutôt pour l'attitude de Mariano Rajoy, dont d'autres pour celle de Carles Puigdemont. Est-ce que la presse espagnole aussi est divisée? Est-ce qu'elle se positionne?
Bien sûr. L'exemple emblématique de prise de position, je pense que c'est El País. El País a titré récemment El País con la Constitución. El País avec la Constitution, faisant écho à la une qu'ils avaient fait justement après la tentative de coup d'État du colonel Tejero. On a la presse madrilène, El Mundo, El País, tous ces journaux, ces grands journaux nationaux, qui sont clairement dans le soutien, même s'ils critiquent l'action de Rajoy, sont sur cette question-là du rétablissement de la légalité constitutionnelle du côté de Madrid. Et c'est compréhensible parce que l'Espagne est très attachée, et c'est normal pour un pays qui est sorti de 30 ans de dictature, au respect de la légalité. Alors, ça peut paraître un peu formaliste, mais c'est quelque chose de très précieux pour un pays qui a vécu dans un régime qui était l'inverse de l'état de droit constitutionnel pendant 30 ans.
Je voudrais en venir aux conséquences assez concrètes de ce mouvement indépendantiste qui a suivi, ou plutôt les quelques jours qui ont suivi donc ce référendum. Carles Puigdemont, on peut le dire, subit une très forte impression. On a parlé de celle de la rue, mais aussi du milieu économique. Stéphane Michonneau, on a assisté à des replis d'entreprises qui ont déjà décidé de déménager leur siège. Quelle est l'ampleur de ce mouvement? C'est une vraie peur du secteur économique.
Oui, vous pouvez parler de peur, parce qu'il y a beaucoup de peur dans tout cela. J'ai le sentiment que, après le référendum, la consultation électorale de dimanche, il y a eu un point gagné du côté des catalanistes, qui était la bataille médiatique. Là, de toute évidence, toute l'Europe a regardé ça de manière absolument étonnée, en voyant ces policiers taper sur des vieilles dames. Bon, c'était pas formidable pour le pouvoir central. Et puis, au milieu de semaine, il y a eu un retournement. Mais chacun fourbit ses armes, et chacun y va. Et là, évidemment, l'outil économique a été puissamment utilisé par Madrid, favorisé. Mais enfin, les entreprises aussi, elles, et c'est une question qu'on avait, j'ai l'impression que les catalanistes l'avaient pas tout à fait bien vu, c'est la question de l'Europe, ces entreprises et ces banques, elles ont voulu aller dans une zone européenne où elles peuvent avoir accès à la banque centrale. Mmh. Et cette question européenne a finalement surgi en milieu de semaine, sans qu'elle ait été véritablement prépensée ou envisagée par les catalanistes, qui disaient non, vous inquiétez pas, les entreprises ne partiront pas.
Et est-ce que ça peut être déterminant, alors justement, dans le choix des indépendantistes, d'aller jusqu'au bout ou pas? Est-ce que c'est important?
Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'Anthony Sfaes en pense. Moi, je n'en suis pas sûr. J'ai le sentiment que vraiment, la question déterminante, c'est la question politique.
Anthony Sfaes.
Je suis assez d'accord. Et je pense que l'ambition, en réalité, l'objectif des catalanistes politiques, c'est d'entretenir une sorte de flou sur le statut juridique de la Catalogne. Est-ce qu'elle est un État indépendant ou pas? Est-ce qu'elle est encore dans l'Espagne ou pas? Précisément pour rester dans l'Union européenne. Parce que le paradoxe, c'est que pour que la Catalogne sorte de l'Union européenne, il faut qu'elle soit plus dans l'Union européenne, il faut que l'État espagnol la reconnaisse comme État indépendant. Mmh. Et si l'Espagne ne reconnaît pas la Catalogne comme État indépendant, bah la Catalogne sera toujours dans l'Union européenne, juridiquement, mais de facto et concrètement, elle pourra continuer de ne pas respecter l'ordre constitutionnel espagnol, et donc entretenir une sorte de flou sur sa situation politique et juridique. Et c'est pour ça que le comportement des entreprises est un peu irrationnel. Parce que c'est pas parce que le Parlement catalan adopte demain une résolution, une déclaration d'indépendance, que la Catalogne sort ipso facto de l'euro, de l'espace Schengen, du marché commun, etc. Pas du tout. Elle y sera encore demain.
En tout cas, Anthony Sfaes, vous avez répondu à la question d'un de nos auditeurs, puisqu'on leur a proposé de nous soumettre leurs questions donc, sur cette crise. Et c'était donc une question posée par Chebo sur Facebook. Si la Catalogne proclame l'indépendance mardi, est-ce que cette déclaration sera reconnue par l'Union européenne et le monde? Ce sera pas aussi simple, hein. Ce sera pas du jour au lendemain. Je vais vous proposer d'écouter maintenant Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui a une position assez claire depuis le début de la crise.
Vous pouvez avoir la certitude totale et absolue que le gouvernement empêchera toute déclaration d'indépendance. L'Espagne restera l'Espagne et continuera à l'être pour longtemps. Et j'espère que le catalanisme pacifique et modéré, qui pendant de nombreuses années a contribué à la croissance économique de l'Espagne et à l'amélioration de notre bien-être et de notre richesse, fera son retour. Ce n'est pas possible que maintenant il soit entre les mains de radicaux et d'extrémistes.
Stéphane Michonneau, Mariano Rajoy n'a pas écarté la possibilité d'avoir recours à l'article 155 de la Constitution en cas d'indépendance. Qu'est-ce que ça signifierait?
Ça signifie une suspension de la généralité, de fait. Enfin, elle continue à exister, mais assumée par le pouvoir central. Élément important, aujourd'hui, le PSOE a l'air de dire qu'il appuierait cette possibilité. Et c'est ce que Rajoy voulait.
Le Parti Socialiste.
Parce qu'il ne voulait pas s'engager dans cette voie avec uniquement les députés du PP. Donc
Alors ça veut dire que Madrid reprend le contrôle de la Catalogne, c'est bien ça?
Oui.
Et aussi qu'il y a des élections. Anthony Sfaes.
Alors, l'article 155, c'est un instrument politique de protection de la Constitution. C'est-à-dire qu'il permet d'instaurer un état d'exception, c'est-à-dire de suspendre une partie de la Constitution espagnole, à savoir la partie qui garantit l'autonomie de la Catalogne. Ça ne touche pas les libertés collectives. C'est juste des questions d'autonomie. Et ça permet à l'État espagnol d'assumer toutes les compétences de la communauté autonome de Catalogne, toutes les compétences politiques.
Merci beaucoup, Anthony Sfaes, d'avoir été en ligne avec nous de Madrid. Merci, Stéphane Michonneau, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille. Merci à toute l'équipe de Décryptage, émission à retrouver sur Facebook, sur Twitter et bien sûr sur RFI.fr. Très bonne soirée.